8 jours après la victoire et la prise de pouvoir des talibans, les évacuations se poursuivent très difficilement depuis l'aéroport de Kaboul. Plus de 30 000 personnes ont d'ores et déjà été sorties d'Afghanistan, mais combien sont-ils, sont-elles à vouloir fuir le régime taliban? Quel crédit apporter aux dirigeants du mouvement qui tentent de rassurer sur leurs intentions? Pendant que des discussions ont lieu sur la formation d'un gouvernement dit inclusif, les talibans affirment avoir envoyé des centaines de combattants dans la vallée du Panjshir, où une poche de résistance s'est formée, emmenée notamment par Ahmad Massoud, fils du commandant tué en 2001 par Al-Qaïda. Avec nous ce matin, Olivier Roy, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur France Culture. Politologue, spécialiste de l'islam, grand connaisseur de l'Afghanistan, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Peut-être commencer par cette situation au Panjshir, cette vallée au nord-est de Kaboul, avec ce front national de résistance emmené donc par Ahmad Massoud. Les talibans ont annoncé hier soir l'envoi de renforts là-bas après l'échec de négociations avec lui. Comment peut évoluer la situation dans cette zone? Et cette résistance a-t-elle la moindre chance?
Alors techniquement, les Panjshiris peuvent résister, en tout cas un certain nombre de temps, parce qu'ils ont les armes, ils ont des combattants professionnels, et la vallée se prête très très bien à une défense. Le problème, c'est est-ce que politiquement ils peuvent le faire? Et là, il y a deux questions. Le soutien de la population, c'est-à-dire partir pour une nouvelle guerre civile, être assiégé par les talibans, subir les conséquences économiques, etc., c'est un sacré problème. Donc je pense qu'il y a dans la population, il n'y a pas forcément unanimité sur la question de la résistance. Et l'autre problème, c'est, l'autre question, c'est les négociations qu'il y a très certainement en ce moment dans les coulisses. Parce que quand on regarde l'équipe des gens de Massoud qui tenait Kaboul, on voit que les seuls qui sont retournés au Panjshir sont ceux qui sont originaires du Panjshir. Les autres, comme Abdallah, Kanouni, etc., sont en train de négocier avec les talibans. Alors, est-ce que c'est une scission ou est-ce que c'est au contraire un double jeu très classique? Il y en a un qui tient la zone militaire et les autres négocient pour trouver une issue de crise. Je pense que ça se conclura plutôt à la fin par une négociation.
Alors, justement, Olivier Roy, c'est ces discussions qui ont lieu en ce moment à propos de la formation d'un gouvernement inclusif. Comment faut-il entendre inclusif? Qu'est-ce que cela signifie dans le contexte afghan actuel?
Bon, pour les talibans, c'est clair, ils veulent le pouvoir, ils veulent le monopole du pouvoir. Donc pour eux, inclusif, ça veut dire ajouter des gens dans le gouvernement qui ne font pas partie des talibans. Mais ça ne sera pas un gouvernement de coalition. Donc ils vont prendre effectivement des gens du Nord, ils vont peut-être même prendre une femme, ils vont inclure des chiites, etc. Mais il faut se faire aucune illusion. Ça sera un gouvernement taliban.
Et que signifie le fait que le numéro 2 est cofondateur du mouvement Abdul Rani Baradar soit à Kaboul depuis ce week-end et dans ses discussions? Peut-être aussi que ça vaut le coup de nous rappeler un peu qui il est et le rôle qu'il a joué ces dernières années et ces derniers mois, Olivier Roy.
Alors, Baradar est issu des Pashtuns du Sud, comme tout le groupe taliban. C'était un compagnon de route de Mollah Omar, c'est un des fondateurs des talibans. Donc, il a la légitimité historique. Il est numéro 2, j'allais dire tout simplement, parce que le numéro 1, c'est Harounzadeh, qui lui est un religieux et n'a pas pris vraiment la succession de Mollah Omar. Donc, je dirais le véritable homme politique des talibans, c'est Baradar. Et Baradar a toujours été connu depuis 2010 comme partisan d'une négociation, en particulier avec les Américains. Il a été mis en prison par les Pakistanais en 2011 parce que justement ceux-ci avaient peur qu'il négocie directement soit avec Kaboul, soit avec les Américains. Il a été libéré, je crois, vers 2018 sous la pression américaine. Donc c'est la vraie tête politique du mouvement et c'est l'homme des négociations.
Ouais, voilà, c'est lui qui a négocié les accords de Doha.
Oui.
Donc le fait qu'il soit dans ces discussions, est-ce que ça donne une indication sur le rôle qu'il pourrait tenir justement dans ce futur pouvoir gouvernement taliban?
Alors, si Harounzadeh est bien l'émir, ça ne sera pas le premier ministre. Ça ne sera pas lui qui gérera le gouvernement. Donc, il y a de fortes chances que ça soit Baradar qui devienne premier ministre. Mais le groupe des talibans, c'est un groupe collectif. Ils ont des divergences, on en connaît certaines, etc. Mais ils ont toujours travaillé en équipe sous la direction d'un personnage plus ou moins charismatique. Et je crois que cette collégialité va continuer. Ouais. Donc, le problème, c'est pas tellement de chercher les nuances entre tel et tel branche des talibans.
Ouais. Oui, c'est ça, parce que justement, plusieurs spécialistes de l'Afghanistan disent aussi que malgré les tentatives des services américains, le mouvement taliban a toujours justement conservé une forme d'unité. Pensez-vous que celle-ci est suffisamment solide, on va dire, pour résister à une victoire telle que celle que les talibans viennent de remporter?
Ben, je crois qu'ils ont tiré les leçons de 2001. Hein. Ils avaient le pouvoir en 2001. L'opposition du Nord était retranchée dans ses bastions, mais n'avait pas les moyens de prendre Kaboul. Ils ont pris Kaboul grâce aux Américains. Donc les talibans ont perdu le pouvoir sur une faute de Mollah Omar, qui était d'avoir donné l'asile à Ben Laden. Et maintenant, au bout de 20 ans, ils ont repris le pouvoir. Je crois qu'ils vont être prudents. Mmh. Encore une fois, leur objectif, c'est de garder le pouvoir. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Mais du coup, on a un élément de négociations avec eux.
Et donc, justement, le gouvernement qui sortira de ces discussions, est-ce que ce sera d'abord un message envoyé à l'extérieur ou à l'intérieur? Je veux dire, dans quelle mesure les talibans sont-ils sensibles au discours des pays occidentaux sur les exigences, les conditions préalables à leur reconnaissance comme interlocuteurs légitimes?
Ben, ils y sont sensibles parce que ils ont intérêt à être sensibles aux relations avec l'extérieur. Ils ont négocié quand même ils négocient depuis 3 ans avec les Américains, donc ils savent très très bien ce que veulent les Américains. Mais il n'y a pas que les Américains dans le jeu. Il y a les Iraniens, il y a les Russes, il y a les Chinois. Et l'Afghanistan est un pays enclavé, c'est un pays pauvre. Ils ont besoin de frontières plus ouvertes, ils ont besoin de coopération internationale. Donc ils vont donner les garanties internationales. Ça fait aucun doute parce que c'est pas un problème. Pour eux, ils n'ont jamais été des djihadistes globaux, ils n'ont jamais fait du terrorisme international. Donc pour eux, c'est pas une concession idéologique de s'engager à ne pas exporter le djihad ou le terrorisme à l'extérieur de leur pays. Le problème, c'est l'intérieur. Hein. Ouais. Alors évidemment, là en ce moment, ils donnent des garanties. Hein. Ils essaient de rassurer la population. Ils ont montré, et ça a été la clé de leur succès.